Hey, deux visites en Allemagne pour le prix d'une ce soir. Un petit peu plus tard à l'émission, on s'entretient avec le directeur général de l'équipe de Berlin dans la Ligue élite allemande, Stéphane Richer, l'ancien défenseur de l'organisation du Canadien, à ne pas confondre avec l'attaquant. Et à l'instant même, bébé, c'est notre ami de la poche bleue, Maxime Lapierre, que nous allons retrouver tout de suite. Bonsoir, Maxime.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très bien toi-même?
Ça va, ça va.
Un match numéro 6 en finale de la Coupe Stanley. Je sais pas si tu avais parié là-dessus. Es-tu surpris que Dallas ait forcé la tenue d'un autre match? Il y en a qui pensaient que Tampa Bay les avait peut-être sortis dans le match précédent, Max.
Oui, je pense qu'il y a un moment donné, je pensais que c'était fini. Mais je pense qu'en finale de la Coupe Stanley, là, tu peux jamais prédire rien. Les gars se battent avec beaucoup d'émotion, sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner. Tampa Bay, là, c'est les deux équipes, c'est deux bonnes équipes de hockey. La seule affaire qui me fait peur un petit peu en ce moment, c'est le match qu'a connu Corey Perry. Je pense que c'est un gars qui joue sur l'émotion. Puis quand il a un momentum comme il a en ce moment, là, c'est un gars qui peut changer un match à lui seul d'une certaine façon, parce que c'est un guerrier, c'est un gars qui joue de la bonne manière quand il a confiance, puis il a déjà gagné, puis il est capable de compter des buts. Donc c'est le seul petit côté qui me fait peur du côté de Dallas, mais en même temps, je sais que Tampa Bay a vécu l'an passé une expérience qui les a fait grandir, puis je pense pas qu'en ce moment ils sont stressés, parce que justement, ils ont appris dans l'adversité, puis je suis certain que ce soit le match numéro 6 ou le match numéro 7, ils vont trouver un moyen de repartir de la bulle avec la Coupe Stanley.
Mais dirais-tu que tout à coup, là, la pression, même s'ils sont en avance 3-2 dans cette série-là, est sur Tampa Bay de finir ça ce soir?
Non, Mario, on regarde pas ça de cette façon-là, je pense, dans le vestiaire, les joueurs, les entraîneurs, l'organisation. Le mot d'ordre, c'est toujours de d'effacer ce qui est arrivé dans le passé puis de se concentrer sur le prochain match. Puis je pense que les gars l'appliquent très bien, cette pensée-là. Donc ce soir, le Tampa Bay, je pense que ça va être... les gars vont être calmes, l'entraîneur va être calme, il va dire, écoutez, on a vécu beaucoup de choses dans la dernière année ensemble. On a appris, puis il y a une raison pour qu'on a vécu tout ça, c'est pour nous faire gagner cette année. Peu importe de quelle façon, peu importe quand, on le sait qu'on a confiance en nos moyens, puis on va gagner. Donc, on l'a dit en première ronde, je pense que c'est une question de patience, justement. Ça a été testé en première ronde, en deuxième ronde, en troisième ronde, mais là, il faut le tester dans un match important comme le match numéro 6 ou le match numéro 7, s'il y en a un. C'est de savoir qu'il faut pas gagner le match la première minute, puis il faut pas le gagner en première période. Puis ça se peut que tu tires de l'arrière, mais faut rester avec le plan de match, comme on le faisait en première ronde. Je suis confiant que le Lightning de Tampa Bay va être capable de faire ça.
Maxime, imagine-toi rien qu'un moment, là, mettons, on est à Montréal, puis les Stars de Dallas, là, c'est le Canadien de Montréal. Puis là, recule un petit peu dans le temps, là, puis là, l'équipe nous annonce l'acquisition de Pavelski, un gars de 35 ans. 36 ans même, Pavelski, il a eu 36 ans au mois de juillet. On nous annonce l'acquisition d'un Corey Perry, 35 ans. Puis qu'on a un Radulov là, qui s'en va vers les 35 ans. Là, puis que ça, c'est deux morceaux de notre première ligne, plus Jamie Benn. Puis qu'on aura un Kiviranta que personne connaissait il y a 3 semaines et demie. Puis que ce club-là sera en finale, l'aurais-tu cru? Puis ici, comment ça aurait réagi? Tu sais, c'est un autre modèle complètement différent que celui de Tampa Bay, Maxime. Puis ils sont en finale, eux autres aussi.
Ouais, exactement. Puis ça prouve encore une fois, Mario, qu'il y a différentes mentalités qui peuvent gagner dans la Ligue nationale de hockey. Faut arrêter de toujours essayer de copier les autres organisations. Je pense que chaque organisation a son identité, puis il faut juste respecter notre identité. Dallas, ils ont construit une équipe à leur façon, c'est ce qu'ils ont vendu à leurs joueurs, puis les gars, en anglais, on dit, ils ont buy-in le système, ils ont acheté l'idée. Donc c'est pour ça que tu gagnes dans la Ligue nationale. Toutes les équipes sont bonnes, tous les joueurs sont bons. C'est vraiment une question de qui est le meilleur vendeur en tant qu'entraîneur, en tant qu'organisation. Puis on a l'exemple, Tampa Bay, ils ont vendu un nouveau produit qui était avoir une équipe un petit peu plus robuste. Dallas, ils ont fait un beau mix de jeunes, de vétérans qu'on pensait finis. Mais moi, quand on signait des gars comme Corey Perry, Pavelski, je me disais, en dedans de moi, j'ai dit, ces gars-là vont vouloir prouver à tout le monde qui leur en reste encore dans le tank à gaz. Puis c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pavelski a compté des gros buts. Puis là, Corey Perry, on dit qu'il vient de se réveiller, mais il joue quand même bien, même s'il n'y a pas les statistiques. Là, il y a du momentum, le gars, puis il y a de l'expérience. Donc, il peut être très, très dangereux.
Pavelski est passé maître dans l'art de faire dévier des lancers, Maxime. On s'en parlait un petit peu avant d'entrer en onde ce soir. C'est vraiment un art, puis il faut pas avoir froid aux yeux, là. Je m'imagine, moi, aller me planter en avant du filet avec Shea Weber qui va me lancer une garnotte en arrière ou un Chara à Boston, là, puis il y en a des tirs puissants dans la Ligue nationale. Pas évident, hein?
Non, c'est pas évident, puis il faut vraiment comprendre que c'est pas de la chance. C'est des heures et des heures de travail. Tu viens de mentionner Pavelski. On le voit souvent là dans les matchs avant les pratiques et tout ça. Il se pratique, il prend des lancers, il essaie de dévier tout ce qu'il y a sur son passage lors des entraînements. Il y a une raison pourquoi il est capable de faire ça. C'est de la pratique. Puis ça, c'est la meilleure chose à retenir pour les jeunes. C'est peu importe ce que tu veux faire, si tu le répètes à tous les jours des centaines de fois. À un moment donné, tu vas trouver le moyen de le faire. Il y a aussi l'aspect courage, tu viens de le dire, Mario, c'est que c'est pas si simple que ça de juste aller devant le filet, recevoir les coups de bâton, se battre pour ta place, ton positionnement, puis tu vois pas vraiment la rondelle, là. Tu vois la rondelle pendant une fraction de seconde parce qu'il y a tellement de trafic, il y a les défenseurs, il y a tes attaquants, tout le monde est dans la ligne de tir d'une certaine façon. Faut vraiment que tu trouves le moment, le timing, la bonne façon de dévier la rondelle. En plus de ça, chaque défenseur est différent. Il y a des lancers plus lents. Si tu compares, là, je te disais tantôt, un gars comme Weber puis Victor Mété, ils ont pas le même style de lancer, pas la même vitesse de lancer. Donc, il faut s'adapter à tout le monde. Mais la seule façon que tu peux faire ça, c'est dans les entraînements, justement, en pratiquant, en t'appliquant.
Bloquer des lancers, Maxime, dans quel état d'esprit t'en as bloqué des tirs dans la Ligue nationale en pleine finale de la Coupe Stanley, là? Jusqu'à quel point... t'es vraiment protégé quand ça frappe ton équipement ou même quand ça frappe ton équipement, ça fait mal.
Ça fait très mal, Mario, puis c'est pour ça qu'on a toujours respecté nos coéquipiers qui font ce travail-là. Le premier nom qui me vient en tête en ce moment, c'est Steve Bégin. Je pense que quand je jouais avec ce gars-là, il y avait lui, en plus de tout ça, il avait pas de technique pour le bloquer. C'était n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, il va bloquer le lancer pour l'équipe. Quel joueur de hockey, quel gars important pour un vestiaire, puis c'est ça aussi, Mario, ça devient une histoire de timing, puis de concentration, je te dirais, un petit peu plus de ce côté-là, parce qu'un lancer bloqué, tu le fais pas lors des entraînements, parce que sinon, on manquerait de joueurs à la fin de la saison. Donc, c'est vraiment une question de préparation mentale, de regarder des vidéos et tout ça, d'apprendre à savoir comment le défenseur de l'autre équipe lance la rondelle. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. La première fois que j'ai joué contre Eric Carlson, la façon dont il lisait le jeu, il bougeait la rondelle quand il lançait, j'avais de la misère à m'adapter puis me mettre dans la ligne de tir. Ça m'a pris une couple de matchs avant de comprendre qu'il tirait la rondelle vers lui, qu'il avait une façon spéciale, parce que c'est un défenseur intelligent, justement. Oui. Lui, de son côté, il se devait de trouver la ligne de tir, puis moi, je devais le bloquer, mais c'était pas si simple que ça devant un joueur étoile comme ça. Donc, c'est une question de préparation, une question de concentration, puis c'est vraiment du désir, du vouloir de sacrifier, parce que ça c'en est une partie que c'est pas tous les joueurs qui veulent faire ça.
En tout cas, Dallas, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Tu parlais de suivre les modes tout à l'heure. Je me demande jusqu'à quel point Dallas vient un peu comment de faire sauter le moule qu'il faut que tu cesses. Ils n'ont pas été super compétitifs les dernières années, là, mais les embauches de vétérans, je sais pas jusqu'à quel point on a pris ça au sérieux. Et regarde bien ça l'année prochaine semaine, là, voir s'il n'y a pas une couple d'embauches de vétérans clé à travers la Ligue. D'ailleurs, juste avant d'aller à la pause, penses-tu encore une place pour un Kovalchuk à Montréal où on passe un autre appel? Comme plan B ou C, là, Maxime, c'est sûr que sur la liste d'épicerie de Marc Bergevin, je pense qu'il y a d'autres hypothèses comme plan A, là, mais si jamais ça marche pas.
Je vais être honnête avec toi, Mario, je donnerai une chance à Bobby Ryan avant Kovalchuk.
Ah oui, et pourquoi? Explique-moi. Tu le connais bien, Ryan? Tu le veux à l'œuvre?
J'ai joué avec lui à Anaheim. Je pense que c'est un gars, s'il sort de son environnement, il a besoin de tourner la page. Ce qu'il a vécu cette année, là, chapeau à lui. Je pense que il a fait un grand pas dans la bonne direction. C'est un gars très, très talentueux, puis il est pas si vieux que ça. T'sais, je pense que c'est un gars, si il est utilisé de la bonne façon, pas trop cher, je prendrais un risque.
C'est drôle parce que comme ça, je mentionnais ça sans grandes attentes là, en conversation avec le Bleuet Bionic vendredi passé. Puis il m'a dit la même affaire en d'autres mots que toi, en voulant dire, il dit, oh, Ryan, t'es un petit peu, là, wow, en voulant dire, Arabel, le gars, il a soigné ses vieux démons, peut-être a envie de se racheter puis quitter ou compléter sa carrière sur une note positive. C'est un pensée si bien, mais même, mettons, s'il a chassé ses démons ou ses mauvaises habitudes, dans le style de jeu, tu penses que c'est un vaillant, tu sais, c'est un gars qui peut vraiment être... positif? T'as pas trop de soucis là, sur son éthique de travail?
Ben écoute, je l'ai vu jouer du très gros hockey, là, puis je pense qu'on s'en rappelle tous, là, les buts qu'il marquait, puis tout ça. C'est un gars qui est capable de se fâcher aussi, puis d'être physique quand ça y tente. Maintenant, est-ce qu'il est capable de faire ça 82 matchs? Je sais pas, je vais te l'avouer. Mais est-ce qu'il peut dépanner quand il y a des blessures? Est-ce qu'on prend le risque que, justement, il arrive à Montréal avec une mentalité où il est très positif, puis ça y tente de jouer au hockey? Moi... ça dépend du montant, mais je prendrais le risque.
Maxime, écoute, le week-end a passé, il faisait beau, on a eu le temps de passer à autre chose, là, mais j'ai pensé à toi en entendant Jeff Petrie et son épouse Julie également qui commentait sur son Instagram, là, de sentir à quel point ces gens-là sont fiers d'être à Montréal. Puis toi qui as tellement mis l'emphase plusieurs fois dans tes commentaires sur la fierté de porter le chandail, ça doit être de la musique à tes oreilles?
Je suis tellement content d'entendre ça. Finalement, ça fait du bien. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que ça paraissait dans sa façon de se comporter sur la patinoire depuis un bout de temps. Là. C'est un gars qui joue à 100% à chaque match. Tu vois que c'est important pour lui, le Canadien de Montréal, dans sa façon d'agir avec d'interagir avec ses coéquipiers et tout ça. Il est en train de montrer là justement que c'est la valeur du logo du Canadien de Montréal. J'espère que ça va attirer d'autres joueurs comme lui, des agents libres puis tout ça, parce que tu sais, souvent Mario, on pense à la tradition des glorieux du Canadien de Montréal, que c'est juste gagner des coupes Stanley. C'est pas ça qu'on veut dire quand on parle de glorieux. On parle de l'amour pour l'équipe, le respect du logo. Le Canadien de Montréal, c'est une façon de vivre. C'est pas juste une organisation sportive. Ça représente des gens qui travaillent, des gens qui sont honnêtes, des gens qui ont du respect, des gens qui veulent être un exemple pour la société. Donc pour moi, quand j'entendais dans une couple de fois là, dans les années précédentes que quelqu'un veut pas venir à Montréal à cause des impôts ou à cause de l'hiver ou à cause qu'on n'a pas une équipe gagnante pour le moment et tout ça, ça me faisait mal à moi en tant qu'ancien joueur du Canadien, puis ça fait mal à beaucoup d'anciens joueurs du Canadien, j'en suis convaincu. Mais en même temps aussi, je réalise l'impact là, en ce moment pour un gars comme Petrie d'avoir deux jeunes comme Kotkaniemi, Suzuki, il y a un futur, d'autres joueurs qui aiment l'organisation. Puis justement, un gars comme Petrie est tellement important pour apprendre à ces jeunes-là l'importance que c'est d'avoir le chandail du Canadien de Montréal sur ton dos.
Et je reviens à la question que Jérémy Rainville posait vendredi soir, puis c'est un angle intéressant parce que c'est ça que ça nous révèle, la signature de Jeff Petrie puis la prolongation de contrat, c'est qu'il y a des gars vus de l'intérieur qui pensent qu'ils ont un bon club, un bon noyau, même s'ils l'ont pas prouvé si souvent que ça dans les dernières années en ratant leur qualif en série. Donc, ils y croient. Puis Dallas aussi en a raté des qualifs en série dans les dernières années puis sont en finale. Fait que donc, de l'intérieur, le boss pense qu'il y a de quoi de solide. Les joueurs, en tout cas, Petrie nous dit qu'il pense qu'il y a de quoi de solide aussi. Il a parlé à Gallagher en plus, fait qu'il a l'air d'avoir comme un peu l'impression que Gallagher va rester ici. Donc, les gars du noyau pensent vraiment qu'avec une couple de jeunes comme Suzuki, qu'ils peuvent aller quelque part, que ça peut aboutir à quelque chose, cette affaire-là, Maxime?
Je pense que oui. Puis, tu sais, Mario, la plupart du temps, on pense que c'est les mots, les phrases que les directeurs généraux nous disent ou les entraîneurs. Oui, ça a un impact. Ça a un impact sur le groupe. Mais la vraie impact, elle vient de l'opinion, puis la façon de se comporter des joueurs, de tes coéquipiers. Puis ce que je veux dire par là, c'est ce que Petrie est en train de faire, même avec le commentaire de sa femme sur les réseaux sociaux et tout ça, il montre qu'ils sont à 100% à Montréal, qu'ils sont heureux, qu'ils croient à l'organisation, puis qu'ils croient en ses coéquipiers aussi. Puis je pense que ça va avoir un impact majeur dans les prochaines années. Un, sur l'esprit d'équipe du Canadien de Montréal. Deux, sur la façon que les jeunes vont regarder les vétérans. Ils réalisent à quel point c'est important. Puis en même temps, ça va peut-être attirer d'autres joueurs qui vont dire, ben écoute, c'est un gars comme Petrie a signé là quand il avait la chance d'aller sur le marché, puis signer où il voulait, s'installer de la façon qu'il voulait. Peut-être qu'il y a quelque chose à Montréal finalement. Peut-être qu'il y a une chance de gagner dans un grand marché de hockey où les fans sont incroyables. Puis à chaque match au Centre Bell, c'est de 21 273 spectateurs qui veulent justement gagner une Coupe Stanley depuis longtemps.
Alors que plusieurs pensent depuis quelques années déjà, que c'est nécessairement Edmonton parce qu'ils ont McDavid ou Toronto parce qu'ils ont Matthews qui sont les équipes destinées à gagner les grands honneurs prochainement. Je dis pas qu'ils gagneront pas, mais on le voit, il y a plus qu'une recette, Max.
Ouais, exactement. La Ligue nationale est tellement bonne. Il y a tellement de bonnes équipes. C'est pas un joueur. C'est vraiment les quatre trios, les trois paires de défenseurs, les deux gardiens de but. Tu peux pas gagner juste avec un joueur. Je pense qu'on a l'exemple parfait, là, dans notre génération. Tu regardes un gars comme McDavid. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale, probablement. Un des meilleurs, assurément. Il a tout le talent au monde, mais il est mal entouré. Oui, il y a Dreisaitl, là. Faut pas oublier Dreisaitl dans l'équation, mais il est pas entouré pour gagner un championnat. Ça prend vraiment des joueurs sur tous les trios avec des rôles importants.
Deux petits sujets en terminant. Maxime Lapierre qui est avec nous. T'as commencé à pratiquer avec Alex Turcotte, fils d'Alfie, ancien choix de première ronde du Canadien de Montréal. Alex est le choix de première ronde des Kings au dernier repêchage. Est-ce qu'il est bon, le jeune homme?
Oui, il m'a impressionné. Aujourd'hui, on a joué notre premier match intra-équipe, là. Puis, je pense qu'il est le poster boy de la nouvelle génération, là, un gars avec la rapidité des mains incroyables, une vision du jeu, un joueur électrisant. Je peux vous garantir qu'il va avoir du succès dans la Ligue nationale, parce qu'aujourd'hui, là, honnêtement, il m'a impressionné pour un gars qui vient d'arriver quand même dans jouer avec des hommes, là. C'est du hockey professionnel ici, puis les gars ont beaucoup de talent, on a beaucoup de vétérans, il a réussi à avoir un gros match puis à impressionner tout le monde.
Lui, son année de repêchage, c'était le dernier repêchage, mais tu évolues, semble-t-il, que tu es tout un mentor pour le jeune Lucas Reichel, un jeune qui a eu 18 ans là récemment, mais c'est son année de repêchage, devrait être repêché peut-être en première ronde la semaine prochaine. Est-ce que c'est un jeune homme qui t'a impressionné? Penses-tu qu'il va avoir une belle carrière?
Oui, c'est certain. C'est un gars qui est tellement intelligent, tellement mature pour son âge. Lui, c'est un joueur qui est sur la patinoire, c'est une question de décision. Il prend toujours la bonne décision. Son hockey IQ, qu'on dit dans le monde du hockey, est exceptionnel. Je pense aussi que c'est un gars là, qui rêve d'aller en Amérique, de jouer dans la Ligue nationale. Puis il me donne beaucoup de plaisir. Hein. C'est le fun pour moi. Là, depuis que je suis arrivé en Europe, j'ai la chance de vivre justement ce rôle de mentor-là. Je l'ai vécu avec Elvis Merzlikins à Lugano, qui est maintenant le gardien à Columbus, qui a eu du succès cette année. Puis là, j'ai la chance de patiner avec les jeunes comme Lucas Reichel, puis des jeunes comme Turcotte qui sont ici là juste pour s'entraîner. Je me considère chanceux parce que en même temps, le vieux de 35 ans, il doit pousser un peu pour suivre ces gars-là, parce que sinon, je vais traîner de la patte en arrière.
Et c'est pas mal intéressant comme aspect de ta carrière à ce stade-ci également, là, Maxime. C'est vrai que ça doit être vraiment stimulant. Puis sais-tu quoi? Mon hésitation vient du fait que je pensais au fait que t'aurais peut-être pu jouer le même rôle en fin de carrière à Montréal. Évidemment, écoute, on peut pas rien changer à la réalité. Là, t'es en Allemagne, tu le fais, mais ça a dû te traverser l'esprit de temps en temps. Hein? Tu sais, comme des gars qui avoir la chance de finir ta carrière à Montréal puis de jouer le rôle de mentor puis de vétéran.
Ah, j'y ai pensé presque à tous les jours de ma vie, Mario, puis ça a été difficile pour moi. J'aurais été le style de joueur qui aurait signé à salaire minimum juste pour porter le logo du Canadien puis prendre soin justement du futur, mais ça fait partie de la game. Je pense que tout arrive pour une raison dans la vie, puis moi, ben ça a été de me découvrir un nouveau rôle en Europe et de vivre une super belle vie avec ma famille.
Ben, c'est avec une attitude comme ça qu'on se trouve à vivre de grandes choses. Maxime, un gros merci. Prédiction ce soir, est-ce que Dallas force la tenue d'un match numéro 7 ou Tampa Bay concrétise sa victoire?
Je vais y aller pour Tampa Bay. Je pense que justement, là, ils vont nous montrer qu'ils ont appris, puis qu'ils vont sortir fort, puis ils vont, comme on dit, ils vont closer le deal. Ils en ont besoin, ils le méritent. Puis je le souhaite à mon ami Mathieu Darche, là, qui fait partie de l'organisation.
Ben certainement, on le souhaite à Mathieu, à Julien Brisebois, puis nous autres, ben ça va nous faire du monde content qui parle en nom de demain s'il gagne ce soir. Maxime, bonne nuit en Allemagne. On se reparle mercredi avec Guillaume pour la poche bleue.
Parfait, salut Mario.
Salut Maxime.